Le collectif Unissons nos différences présente les semaines de lutte contre les discriminations. Aujourd'hui, nous recevons Femmes solidaires avec Laurette et Linda. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter notre invitation sur l'autre radio.
De rien.
C'est un plaisir de vous recevoir. On va découvrir un petit peu Femmes solidaires, l'association. Alors justement, Laurette, en quelques mots, l'histoire de Femmes solidaires.
Alors, l'histoire de Femmes solidaires, ça remonte à loin, puisqu'en fait, c'est une association qui est née en 1945,
d'accord,
qui est héritière des mouvements féminins, on va dire, de la résistance. Et donc, à ce titre-là, et vu les circonstances historiques, c'était vraiment la défense des droits basiques, je dirais, du genre le droit de vote, et puis toutes sortes d'autres droits plus ou moins liés quand même à la famille. Et c'est une association qui, à l'époque, s'appelait l'Union des femmes françaises.
D'accord.
Et qui a changé de nom et aussi peut-être de dimension. Je crois que c'est en 1998 qu'elle a pris le nom de Femmes solidaires, en s'intéressant, même si c'était déjà le cas avant forcément, mais aux femmes à l'international.
D'accord,
et donc
okay.
Femmes solidaires actuellement est une instance consultative à l'ONU. Donc voilà.
Ok, donc ça c'est Femmes solidaires au niveau national, mais du coup sur l'antenne, si je peux me permettre de dire ça, mayonnaise, du coup, a été créée en quelle année ?
Oh, je ne sais pas, en fait, l'Union des femmes françaises, c'était assez ancien, parce qu'on a des copines qui ont plus de 80 ans, en fait,
d'accord,
et qui déjà faisaient partie de l'association à cette époque-là.
Ok.
Et voilà, donc je pense que Femmes solidaires, en fait, a pris le nom Femmes solidaires aussi en 98 à Laval.
Okay.
Me semble-t-il.
D'accord.
Comme le national.
Oui, comme au national, mais l'Union des femmes françaises existait déjà avant.
Ah bah oui, oui.
Puisque moi, je l'ai connue par ma grand-mère qui était militante à l'Union des femmes françaises.
D'accord, ok.
Ouais. Déjà quand j'étais toute petite, donc
ouais.
Oui, parce j'ai 40 ans aujourd'hui. Donc,
Marie-Madeleine, Claudine,
je vous ai connue à cette époque-là.
Oui, voilà, c'est ça, elles en faisaient déjà partie, oui.
Comment vous êtes arrivée, vous, à Femmes solidaires dans l'association, Linda ?
Alors moi, j'ai baigné dedans, on va dire, hein, parce que je me rappelle que j'allais de temps en temps aux réunions qui avaient lieu des fois le samedi après-midi avec ma grand-mère.
D'accord.
Et je m'en suis un peu éloignée étant adolescente. C'est Claudine qui est revenue vers moi, qui m'a dit « ce serait bien que tu viennes à notre AG ». Et du coup, j'ai adhéré au moment de l'AG, maintenant peut-être une dizaine d'années, je pense, facile.
Donc derrière une vraie démarche militante, en tout cas de...
Ah bah j'étais déjà féministe, enfin voilà, j'ai été élevée comme ça.
C'est pas suite à quelque chose, c'est
non.
Vraiment dans, en tout cas, dans, tout
voilà.
Dans vos gènes, quoi.
Tout à fait.
Et Laurette,
Alors, moi j'avais déjà une attitude un peu rebelle, féministe, enfin voilà, mais pas vraiment d'action, si ce n'est quelquefois dans mes cours, puisque j'étais prof. Et en fait, quand je suis partie en retraite, c'était la grosse panique, parce que c'était le grand vide et j'avais vraiment très très peur. Donc je suis allée aussitôt, en fait, au Forum des associations qui avait lieu cette année-là. Et je me suis retrouvée avec le stand de Femmes solidaires. Et bizarrement, en fait, il se trouve que dans les militantes de Femmes solidaires, il y a énormément de filles, de femmes qui viennent des fourches.
D'accord.
Et j'ai trouvé des anciennes mères d'élèves. J'ai trouvé aussi des élèves.
D'accord.
Et Linda est l'une d'entre elles.
Ah, ok, d'accord.
Voilà. Mélina, enfin bon, il y a plein de... Et des mères d'élèves aussi, ce qui fait que je me suis trouvée tout de suite en terrain amical, on va dire. Et c'est vrai que petit à petit, je me suis de plus en plus investie, en fait.
Combien d'adhérents ? Comment fonctionne l'association, du coup, Femmes solidaires ?
Alors là, le nombre d'adhérentes,
Laurette,
tu vas mieux...
sur alors la... 5%, 10%.
Oui, près, voilà, sur la Mayenne, on est autour de 35-40 adhérentes,
okay.
C'est pas énorme. Et donc, militantes, on est une dizaine, mais avec quelques-unes quand même qui sont plus actives que les autres, en fait. Hein, on va dire 4-5 qui vraiment sont au cœur de l'action.
Quelle distinction tu fais entre justement adhérentes et militantes ? Quand tu dis 45 adhérentes et une dizaine de militantes, c'est quoi la petite...
Alors, disons qu'en fait, je l'ai expliqué d'ailleurs récemment à une fille qui adhérait. Je dis, il y a deux démarches, en fait. Soit elles adhèrent pour manifester leur soutien.
D'accord, ok.
Et donc, elles sont au courant des choses et puis elles viennent nous âger, etc. Soit elles adhèrent, mais avec aussi l'intention d'être actives, de vraiment participer aux différentes animations, aux différentes choses qu'on propose. Et dans ce cas-là, c'est une question de choix. C'est aussi une question de disponibilité, en fait.
Oui, d'accord. Donc vous, vous êtes active, clairement, les chevilles un peu ouvrières de l'association. qu'est-ce que vous mettez en place? Comment fonctionne justement un petit peu l'association avec ces gens qui sont plutôt actifs?
Alors, on va... Pour le moment, ce n'est pas possible, mais on organise énormément de ciné-débats.
D'accord, ok. Hein,
une dizaine par an, à peu près.
Voilà, à peu près.
Okay.
Après, on intervient beaucoup en milieu scolaire. Donc, on part de la maternelle on s'adresse aussi aux IUT, aux
universités,
les CFA. On intervient vraiment dans tous les milieux. On a plusieurs malles pédagogiques, plusieurs expositions qui s'adressent à tout âge, en fait. Donc, on peut vraiment intervenir dans un public assez large. On est déjà aussi intervenu dans des FJT. Vraiment, à la demande, on intervient là où on nous demande.
D'accord. Alors, il y a un panel très large, puisque là, je vois de maternelle au milieu étudiant. Comment, justement, on intervient de manière, j'imagine, différente entre des petits bouts de 4-5 ans et puis des plus grands moustachus de 20-21 ans? Comment on aborde les choses, justement?
On va pas aborder les choses de la même manière. Les tout-petits, on a des expositions qui sont vraiment adaptées pour les tout-petits, où ça va être plus... Ça va plus être la place de la femme. On va les interroger, savoir si chez eux, il y a une place différente entre la femme et...
Quel regard ils portent.
Voilà, quel regard ils portent, s'ils trouvent ça normal. On va les interroger si eux, ils pourront se permettre de faire tel ou tel sport. Comment ils se considèrent et comment ils pensent qu'ils peuvent avancer dans l'avenir.
Oui, c'est vrai que les petits, on est d'ailleurs assez surprises quelquefois parce qu'en fait, l'expérience prouve qu'ils sont très ouverts. Ils comprennent très très vite que le message qui est derrière, c'est l'égalité filles-garçons. On a l'exposition qu'on a, elle est basée sur des petits volumes de la collection Talents Hauts, donc qui racontent des histoires d'animaux, des histoires d'hommes préhistoriques, etc. Et à partir de ces petits contes, en fait, de ces petites histoires, on essaye de les faire parler pour voir ce qu'ils ont compris, pourquoi il y a la révolte des cocottes ce jour-là, parce qu'elles en ont ras-le-bol de faire le ménage dans le poulailler alors que le coq se prélasse. Enfin, il y a plein de choses comme ça, mais ça marche très très bien. Ouais. Et c'est d'autant plus... Alors, ils racontent aussi beaucoup de choses de leur maison, donc
leur
c'est très rigolo. Mais il y en a déjà, la dernière fois qu'on était allé, on était allé dans le Nord-Mayenne, et à chaque fois il y avait un petit garçon toujours qui voulait absolument pas faire de la danse, et que... Bon, il a le droit, mais qui n'envisageait même pas ça pour un garçon. Quelquefois il y a des petites filles qui même des filles plus âgées en collège aussi, on a vu une jeune fille qui disait ah ben non, certainement mon garçon, si j'en ai un jour, il portera jamais de rose parce que ça se fait pas, enfin voilà, il y a encore bien des réticences, mais bon, on est là pour ça aussi,
c'est à dire d'où l'intérêt de continuer en tout cas être présent et avec les plus grands, c'est parce que moi, est-ce que c'est sous forme de débat, est-ce que du coup c'est, j'imagine qu'il y a
alors
un petit
c'est
peu plus...
pareil pour les plus grands, on va pouvoir proposer des fois des petites vidéos. On a aussi des expositions qui sont un peu plus... Alors là, en ce moment, le sujet qui nous est beaucoup demandé, c'est sur le consentement pour les plus grands. Après, on aborde un peu tous les sujets avec les grands, un peu plus, évidemment. Et après, c'est aussi à eux de nous demander sur quel sujet ils veulent aussi qu'on intervienne.
D'accord, donc vous partez en tout cas de leur demande, c'est ça l'idée ?
Oui, on est intervenu récemment auprès des volontaires en service civique de Unicité.
D'accord, oui.
Donc c'était un après-midi très, très agréable en fait. Hein, et là, on est parti d'un documentaire, Sexe sans consentement, qui a le mérite de montrer des témoignages de jeunes femmes en fait, et expliquer que contrairement à ce qu'on croit généralement, le viol, c'est pas une agression violente dans un parking la nuit par un inconnu, c'est souvent quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un de proche, et ça se passe pas non plus forcément toujours avec violence physique et cris, et voilà, ça peut être des dérapages, ça peut être des choses comme ça, et c'est intéressant d'en parler en fait.
Le combat continue, j'imagine.
Oh, tout à fait.
Ouais.
Tout à fait.
Alors justement, j'allais revenir justement sur ces violences sexuelles, en fait, du coup. Il y a énormément sur Internet des images qui sont véhiculées. On sait qu'il y a, en tout cas, que certains jeunes, l'éducation passe par ces images-là. Du coup, est-ce que vous abordez aussi tout ça avec eux, cette violence un peu, je dirais, de l'image et puis du coup, qui construit ces jeunes-là, en tout cas, en termes de sexualité et de la place de la femme, du coup, dans la sexualité.
Oui. Bah, c'est vrai que l'accès des très jeunes même, hein, quelquefois, à des images à caractère pornographique peut être tout à fait destructrice sur la façon dont ils envisagent les rapports hommes-femmes, les rapports hommes-femmes ou hommes-hommes ou femmes-femmes d'ailleurs. Hein, c'est dans tous les domaines que ça peut se passer. Et c'est vrai que nous, on croit que l'éducation, c'est la meilleure arme qui soit et que plus on arrive à discuter et éveiller un peu les consciences dès le plus jeune âge, et mieux ça sera, y compris pour l'évolution des violences. Parce qu'en fait, la violence, c'est quand même une domination de l'un sur l'autre, c'est la prise de pouvoir, comme le viol, comme voilà, tout ça. Donc effectivement, c'est important.
Tout à fait. Du coup, c'est pareil, on expliquait le consentement. Nous, ce qui nous gêne aussi dans cette histoire de consentement, c'est que c'est souvent à la femme de donner son consentement et que l'homme aussi, il a le droit de donner aussi son consentement et que la femme a le droit aussi d'avoir des désirs et que c'est pas qu'à l'homme d'avoir des désirs. Voilà, donc c'est vraiment très important et c'est vrai qu'on milite un peu pour ça, pour l'égalité aussi dans ces situations-là.
Oui. Est-ce que justement, depuis que vous êtes militante, vous voyez une évolution ? Est-ce que du coup, vous voyez quand même que les choses changent, bougent ou pas vraiment ? Je vois dubitatif toutes les deux, donc je ne sais pas.
Je ne sais pas exactement, en fait.
Alors, c'est jamais facile de le mesurer.
Non, ce n'est pas facile. Parce que je pense que, de toute façon, les violences ne diminuent pas, ça c'est clair. Je pense que la société, en général, devient de plus en plus violente. Et que, forcément, ça se... Alors, quel est le reflet de l'un de l'autre ? On ne sait pas trop. Mais en tout cas, ça se ressent quand même aussi dans les relations humaines, d'une manière générale. Il y a aussi pas mal de violences chez les très jeunes couples, y compris dans les premières relations. Okay. Donc ça, c'est quand même assez inquiétant. Ouais, ça veut dire aussi que, quelque part, l'éducation, elle a échoué, en fait. Hein. On pense que c'est aussi une mauvaise gestion de la frustration. De l'un ou de l'autre, d'ailleurs, hein, parce que même si c'est souvent quand même les jeunes filles et les femmes qui sont victimes, il arrive aussi qu'il y ait des hommes qui soient victimes. Donc, il y a tout ça qui joue. Maintenant, c'est vrai que la parole, comme on dit, s'est libérée, c'est-à-dire qu'on en entend de plus en plus parler. Et que c'est vrai qu'on a des femmes qui viennent nous voir. Il y en a même là récemment qui sont venues pour des agressions qu'elles avaient subies, ça fait une quinzaine d'années en fait.
D'accord.
Mais quand elles étaient élèves ou quand elles étaient étudiantes. Donc maintenant, elles ont pris conscience aussi avec toutes les choses qui ont été médiatisées, hein, les procès, les choses comme ça. Et en plus, oui. Donc voilà, c'est... Alors, est-ce qu'il y en a plus ? On en parle davantage et finalement, c'est une bonne chose.
Ouais, ça, c'est déjà intéressant, quoi. Mais c'est vrai qu'on parlait... Tu voulais peut-être rajouter quelque chose ?
Ouais, moi, je voulais rajouter le fait que, en fait, on est dans une société, effectivement, qui est très patriarcale et que ça a du mal à être dégommé, quoi. Je pense qu'on nous met facilement dans une case. La femme, elle doit faire ci, la femme, elle doit faire ça. L'homme, il doit faire ci, il doit faire ça. Voilà, il n'a pas le droit de pleurer, il n'a pas le droit... Et on est encore dans cette société-là où on va mettre des étiquettes aux gens et les classer.
On insiste justement quand on intervient auprès des jeunes pour dire que le sexisme, c'est pas seulement contre les filles, que les garçons aussi en sont victimes. Parce qu'en fait, la société leur renvoie des normes de force, de virilité, de il faut pas craquer, il faut c'est pas ça. Pleurer, il faut pas montrer ses émotions. Et finalement, ça les emprisonne autant que nous, ça peut nous emprisonner d'être toujours des petites choses fragiles, en fait, c'est ça. Donc ça joue dans les deux sens.
Alors, on disait tout à l'heure, les faits sont là, parce qu'on a aussi parlé pendant le confinement, il y a eu de plus en plus, même un pourcentage de femmes qui ont été malheureusement battues dû au fait de ce confinement. Puis, est-ce que, justement, le fait qu'on parlait d'éducation, est-ce que vous ne voyez quand même pas que les lignes bougent un peu en étant justement, en intervenant vous, auprès de ces jeunes, des collégiens, des lycéens, est-ce que vous n'arrivez pas quand même à bouger un peu les lignes ? Parce que je me dis que c'est malheureux, vous êtes quand même militant, vous avez quand même... Et je me dis, j'espère que ça bouge, parce que j'ai envie, mince alors, pourquoi ça... Ouais.
Quand on intervient, on a l'impression que les publics qu'on a sous les yeux, à part quelques exceptions, on a l'impression qu'ils sont tout à fait d'accord, que voilà, il y a pas de souci, quoi. Maintenant, les faits sont là quand même, quoi. Il y a quand même toujours autant de violence.
On a besoin aussi des images au niveau médiatique. Je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas bougé. Moi, je pensais au Playmobil, par exemple. Il y a encore les boîtes bleues, les boîtes roses, quoi. Voilà, donc il y a des choses qui évoluent. J'ai la sensation qu'il n'y a plus dans les magasins forcément le côté fille, le côté garçon, dans les jouets. Moi, au moment de Noël, je pense en particulier, moi je me souviens pour ma grande que j'avais forcément le côté fille-garçon, je le ressens moins, c'est vrai, actuellement. Mais je trouve qu'il y a encore beaucoup de pubs à la télé qui montrent l'image de la femme, en particulier dans les pubs de voitures, par exemple. C'est un objet, quoi. Enfin,
très décoratif.
Bon, on peut
très
dire même à niveau local. Dernièrement, on a eu une inauguration sur Laval avec, qui a fait grand bruit.
Oui, où il n'y avait que des hommes pour représenter le département, c'est vrai. Oui, tout à fait.
Ouais. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on évolue aussi au niveau de l'image qu'on donne de la femme dans notre société. Et je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas encore trop bougé et que ça n'aide pas, du coup, les mentalités à bouger.
Alors, ça passe par vous, parce que vous êtes militante et vous êtes. Mais ça passe comment par, pour les gens qui nous écouteraient, c'est jamais simple.
Ça passe aussi quelquefois, peut-être, on le fait pas trop, mais pour la chasse, il y a des associations féministes autres qui chassent comme ça ce qu'elles appellent les pépites sexistes dans les publicités, par exemple. Et on peut les signaler, donc il y a une haute autorité sur les publicités sexistes et autres. Mais c'est vrai que, alors, ce qui est assez inquiétant aussi, j'en avais un exemple au tribunal pour enfants encore hier, c'est le rôle des réseaux sociaux.
D'accord.
Parce que il y a quand même beaucoup de harcèlement par ce biais-là. Il y a beaucoup d'utilisation d'images qui devraient rester intimes et qui ne le sont plus. Enfin bref, il y a des choses comme ça qui finalement aussi retombent quand même souvent sur le dos des filles, des femmes. Et ça joue un rôle. Autant ça peut être super, les réseaux sociaux, parce qu'effectivement, ça permet d'être au courant de plein de choses et de partager des choses. Autant ça peut être très, très toxique, en fait.
Oui, on a justement un exemple malheureux, du coup, avec ce qui se passe à Argenteuil dernièrement. Du coup, avec la jeune fille, justement, sur les réseaux sociaux, cette image où elle était un peu dénudée. Et qui a, du coup, on connaît les conséquences, malheureuses.
Ah oui, ça peut aller très loin. Ça peut aller aussi jusqu'au réseau de prostitution. Donc c'est pour ça, j'en profite pour dire que parmi nos projets de l'année, ça va être sans doute au dernier trimestre parce qu'on n'ose plus trop faire de projets à court terme, on a l'intention d'organiser un colloque sur la prostitution des mineurs.
D'accord.
Parce que c'est une question qui, même si on a toujours l'impression d'être protégé en Mayenne, ce qui est en partie vrai et tant mieux pourvu que ça dure, mais c'est quand même un phénomène qui s'étend et qui est assez inquiétant. Donc on voudrait un petit peu tirer la sonnette d'alarme là-dessus. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, ça joue un rôle énorme sur ce plan-là.
Ça sera pour fin d'année, ça ?
Oui, normalement. On avait prévu avril-mai, mais là, c'est pas possible. Donc ce serait septembre, octobre, novembre.
Si tout va bien.
Si tout va bien.
Je vous propose de faire une petite respiration de quelques minutes sur une petite musique et on se retrouve juste après. On va justement parler un peu des actions, plus précisément de Femmes Solidaires. À tout de suite.
Pas quand je me lance et que tu penses m'arrêter. N'insiste pas quand je te dis que tes gestes ont parlé. N'insiste pas quand je dis non. N'insiste pas sans condition. N'insiste pas, N'insiste pas quand je balance des mots doux mais plus à toi. N'insiste pas, sans toi j'avance et je ne te laisse plus le choix. N'insiste pas, jamais je veux enterrer tes regrets. N'insiste pas, faut que tu me laisses. Qu'un jour tout s'arrête, fini les promesses qui tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête. Tourne dans ma tête, dans ma tête. Tourne dans ma tête, dans ma tête. N'insiste pas, j'ai plus confiance, j'arrive plus à te pardonner. J'ai trop souffert et ta violence a fini par me briser. N'insiste pas, je n'en peux plus, je suis foutu, je te dis que je suis foutu. Me laisse, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Tourne, tourne dans ma tête. Dans ma tête. Tourne, tourne dans ma tête. Dans ma tête. N'insiste pas, j'ai tant d'oublier. N'insiste pas, ton temps est passé. N'insiste pas sur ce que tu m'as dit. Tu m'avais promis stop. N'insiste pas, tout est terminé. Tu m'as juré, tu m'as cassé la gueule. T'as dit que tu m'aimais, tu m'as cassé la gueule. Aujourd'hui je m'en vais, je pense à ma gueule. N'insiste pas, c'est ce que tu me disais tous les jours. Que je voulais c'était ton amour. N'insiste pas quand je t'empêche de poser tes mains sales sur moi. N'insiste pas, t'es dangereux. Putain, tu caches bien ton jeu. N'insiste pas, c'est terminé. Faut que tu me laisses. Un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses. Qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Tournent, tournent dans ma tête. Tournent, tournent dans ma tête.
De retour sur l'autre radio, toujours avec Laurette et Linda de Femmes Solidaires. Alors du coup, on parle beaucoup, mais je me dis, vous êtes quand même des femmes très actives et vous êtes surtout beaucoup sur le terrain aussi, et notamment avec toutes les actions et les animations que vous mettez en place. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Alors donc, on parlait de celle qui aura eu en fin d'année, là du coup, donc sur... je cherche le mot sur...
La prostitution
pardon. Merci, Laurette. Et donc du coup, dans les autres actions que vous souhaitez mettre en place ou qui vont en tout cas se développer dans l'année, fin d'année 2021, peut-être dans des projets 2022, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles...
Oui, y a toujours la pièce de théâtre qu'on avait prévu de faire, qui était prévue sur les semaines là, d'éducation, qu'on espère pouvoir faire au mois de novembre.
Au mois de novembre, oui. Là où elle aurait dû être déjà l'année dernière, en fait.
Oui, d'accord, ok.
C'est une pièce de théâtre qui s'appelle Pourquoi tu restes, qui correspond à la question que les femmes victimes de violences s'entendent dire par l'entourage. Mais pourquoi tu restes? Pourquoi tu pars pas? Comme si c'était simple.
C'est ça, oui.
Voilà. Donc celle-là, on espère bien... Il faut qu'on retrouve une salle, par contre, parce que la comédienne, elle est prête, je pense. Donc voilà, il y avait dans le cadre du 8 mars, puisque en fait les semaines d'éducation contre les discriminations tombent souvent en même temps que le 8 mars, donc oui. Ce qui nous permet de cumuler en fait les actions. Normalement, on avait ce soir en fait un ciné-débat sur Alice Guy, la première femme réalisatrice de cinéma justement, et c'était en relation avec l'exposition qu'on comptait présenter à la salle des Pas Perdus du Château-Neuf, sur qui s'appelle Notre Matrimoine.
D'accord.
Et qui présente donc une quinzaine de femmes depuis Olympe de Gouges jusqu'à la dernière, je crois que c'est Barbara, la chanteuse, donc des femmes qui ont marqué l'histoire mais qui n'ont pas forcément été reconnues à leur juste place. Donc voilà, ça devait entrer en parallèle donc, avec ce ciné-débat et puis la pièce de théâtre. Donc ces trois actions-là ont été, reportées en fait, parce que l'exposition, forcément qu'on la sortira un jour ou l'autre, hein, donc voilà.
On l'a, faut bien qu'on la sorte.
Oui, c'est ça.
Mais c'est vrai qu'on voulait marquer le coup, parce qu'une exposition, à la limite, on pourrait tout de suite l'utiliser dans nos actions, je veux dire. Mais celle-là, c'est vrai qu'on avait envie de marquer un petit peu le coup, de faire un vernissage éventuellement avec des militantes du National de Femmes Solidaires qui étaient prêtes à venir. Donc voilà. Et puis bon, malheureusement, ça sera partie remise en fait.
Vous disiez en début d'émission, il y a aussi donc beaucoup de ciné-débats, hein, c'est 7 ou 8 dans l'année. Comment vous choisissez les thématiques de ces ciné-débats? Comment ça se passe? Qui choisit? Comment vous travaillez un petit peu le choix des films?
Donc on a Karen qui nous guide beaucoup sur les films, sur les nouvelles sorties,
oui.
Sur les thématiques des films en question. Et après, on en discute au moment du CA et on décide si on part sur ce film-là ou pas.
Il y a ça, donc, et aussi en fonction des, on va dire, les dates phares des luttes des femmes, en fait. Donc il y a toujours le 25 novembre, la journée internationale de lutte contre les violences, donc on essaye d'être raccord aussi.
Ouais.
Il y a le 6 février, la lutte contre les mutilations sexuelles féminines, donc là aussi on essaye de trouver un film ou voilà, quelque chose là-dessus, et puis bien sûr le 8 mars. Et puis c'est vrai qu'autrement on est assez à l'affût de l'actualité. Il y a beaucoup de films qui sortent. Et donc, on s'est mise en co-organisation du Festival Cinéma et Droits Humains.
D'accord.
Donc, organisé avec Amnesty International et puis Karen, Cinéca 53. Et donc, dans ce cadre-là, comme les droits des femmes et des filles sont les plus bafoués au monde, en fait. Donc, on trouve toujours pas mal de films pour alimenter le débat.
Est-ce que suite, on dit débat, du coup, est-ce que suite à ces débats, parfois, il y a des idées de monter des actions, parce qu'il y a eu un film, il y a eu pas mal de débats, il s'est passé des choses, est-ce que du coup, ça en découle sur des actions
Oui, ça peut, effectivement. Oui. Là, par exemple, c'est pas forcément un ciné-débat, mais quand même, Femmes Solidaires s'était engagée au niveau national auprès d'un groupe de femmes en Éthiopie,
d'accord.
Donc sur la lutte contre les mutilations. Mm-hmm. Et c'est vrai que là, on a monté sur Laval, là, depuis... un an à peu près, un groupe de travail donc, qui comporte le CFPD, donc le centre de prévention et... C'est à l'hôpital,
d'accord.
Un centre de prévention. Avec le CIDFF aussi, France Terre d'Asile, La Porte Ouverte et le Secours Populaire. Donc on a monté un groupe de travail pour sensibiliser à cette question-là, en particulier avant les retours en vacances au pays qui se font normalement tous les ans à peu près au mois de juillet-août. Donc il y a des photos qui ont été faites avec des femmes volontaires.
D'accord.
Et qui vont être porteuses aussi de messages de prévention. Il va y avoir, parce que c'est la seule chose possible en ce moment, des réunions de sensibilisation avec les pôles ados.
Okay.
Donc on a contacté les maisons de quartier. Et puis, si possible, après avec les femmes, ce serait bien aussi. Bon, évidemment, en amenant tout ça autour de d'autres thématiques. Et puis, l'idée, c'est normalement, c'est fixé au 3 juin. Une demi-journée de formation et de sensibilisation pour les professionnels et associations à Château-Gontier, parce que le médecin qui va venir avait déjà fait ce genre d'information à l'hôpital de Laval, donc on essaye de décentraliser. Donc avec la procureure de Laval qui a accepté d'intervenir et le docteur Mazou d'Angers qui donc est un peu spécialiste de cette question-là.
D'accord.
Donc ça nous tient à cœur. On voulait absolument faire ça avant l'été, même si l'interruption des relations internationales sauve finalement un certain nombre de jeunes filles de ça, parce que c'est un vrai danger quand même. Donc, et accru en plus avec la crise sanitaire. Parce
d'accord.
qu'il y avait, ouais. il y a beaucoup de pays d'Afrique en fait qui ont dit que ces pratiques étaient interdites. Mais dans les faits, ça continue quand même. Et le fait que la crise sanitaire a amené aussi une crise économique, ça a engendré des exciseuses qui avaient plus ou moins, comme on dit, rangé leurs couteaux et qui finalement l'ont ressorti et puis ont fait du porte-à-porte pour aller exciser chez les gens. Donc ça s'est beaucoup développé en fait. Et en plus, comme certaines familles se sont trouvées aussi un peu encore plus dans la pauvreté, elles ont accéléré également les mariages forcés qui sont souvent liés.
Ouais.
Et pour être marié, il faut être excisé.
D'accord.
Donc il y a eu toute une campagne de recrudescence de ces phénomènes-là. Et ça, c'est assez inquiétant.
Bah oui, on est d'accord. Donc, il y a une vraie force d'être en partenariat, du coup, sur cette action, parce que là, vous avez cité pas mal de partenaires.
Oui.
Là, du coup, ça permet aussi d'avoir une vraie force, un impact aussi, que ce soit sur le public, mais aussi auprès des partenaires, des politiques, pour sensibiliser.
Oui, tout à fait. Oui, c'est très intéressant. Oui, c'est bien.
Vous travaillez souvent en partenariat, comme ça, justement, dans vos actions. C'est l'idée aussi de développer avec des partenaires.
Tout à fait, on aime bien ne pas être seul et de pouvoir passer le message à un plus grand nombre, c'est aussi l'idée.
Oui, et c'est vrai qu'en même temps, et c'est très enrichissant même sur un plan personnel et associatif, ça nous permet aussi d'avoir des contacts, avec les forces de l'ordre, avec la justice, avec plein de gens, au niveau accueil des femmes victimes par exemple, on est en relation aussi avec la Citadelle, avec le CIDFF, avec la DAVIP, donc pas mal d'associations.
Oui, le lien se fait en tout cas.
Le lien se fait, tout à fait.
Alors, il y a quelque chose qui est très important, c'est que vous tenez des permanences aussi. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément parlé. Vous êtes présent, je crois, au Carrefour à Laval. Enfin, pas qu'au Carrefour d'ailleurs, mais vous avez permanence
aussi
au local.
On a déjà notre permanence dans notre local tous les lundis après-midi. De
14h à 17h. On a changé un peu les horaires en fonction du couvre-feu.
Ouais, oui, il faut s'adapter.
Oui.
Voilà. Et au commissariat de police tous les vendredis après-midi.
14-17 aussi.
Voilà. Mmh. Et le premier mardi de chaque mois.
Samedi.
Tous les samedis. Tous les premiers samedis de chaque mois, on est donc dans la galerie marchande de Carrefour de 10h à 14h.
Donc là, c'est proche du public. Enfin, l'idée, c'est faire. En tout cas, c'est permanent. Ça, c'est ça. Enfin, par exemple, le Carrefour, c'est pas anodin, j'imagine.
Alors,
d'être dans une gaine. Enfin,
Carrefour, ça s'est fait suite au premier confinement, où avec la déléguée aux droits qu'on a tenu des permanences justement pour. Alors, des permanences, on les faisait pas dans la galerie marchande. Là, c'était vraiment, on avait un bureau, on avait le bureau du, il nous prêtait le directeur, de la galerie marchande pour justement que ce soit un peu moins visible si une femme voulait venir discuter. Et suite à ça, donc, avec le directeur, on a réussi à dire qu'on voulait venir un petit peu plus souvent et être un peu plus visible, que les femmes puissent voir qu'on était là. Donc, donc on a fait, vu le nombre qu'on est, on a décidé de le faire qu'une fois par mois parce qu'on ne peut pas être là tout le temps. On n'est pas assez nombreuses pour le moment. Et donc, on le fait une fois par mois seulement.
Et les gens s'arrêtent, les gens discutent, les gens essaient.
On rencontre beaucoup de monde. Alors, c'est assez éclectique, on va dire. Il y a des femmes qui vont nous avoir vues et qu'on va revoir après plus sur nos permanences. Hein, on va pas trop discuter au milieu de la galerie, mais justement, elles vont prendre une brochure, on va leur dire qu'elles peuvent venir et du coup, on les revoit plus tard dans notre local ou au commissariat de police.
C'est l'occasion de prendre des contacts aussi. Parce qu'on a un monsieur, par exemple, d'Emmaüs, qui revient presque tout à chaque fois qu'on est là. Bon, il y avait un monsieur qui était dans un lycée de la Guerche, je crois, et qui se disait pourquoi vous n'interviendriez pas. On est départemental, normalement, on n'est pas régional ou même plus. Mais bon, c'est intéressant, oui, c'est vrai. Et là, la dernière fois qu'on a fait le stand, on était épaulés par des étudiants de l'IUT qui nous ont sollicités pour nous accompagner. Ça fait partie de leur projet de fin d'année, fin de première année. Donc, ils sont en technique de commercial et ils vont refaire notre plaquette de présentation de manière un petit peu plus moderne, on va dire. et en plus, là, ils ont souhaité voir un peu ce que ça donnait sur le terrain.
Okay.
Et donc, ils sont restés en fait tout le temps de la permanence du samedi là, à Carrefour. Et ils étaient enchantés. Après, ils nous ont remerciés. Ils ont dit que ça leur permettait de voir comment on agissait sur le terrain.
Sûr,
et nous, ça nous plaisait bien d'avoir du renfort, en fait.
Bien sûr, c'est plutôt chouette.
Sympa.
Ok, donc on peut retrouver ces trois permanences, là, du coup, au local, au commissariat, et puis du coup, dans la galerie du Carrefour le premier samedi de chaque mois.
Tout à fait.
Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter, qu'on n'aurait pas abordées, du coup
Alors, je voulais rajouter les séances de self-défense.
Ah oui,
parce que c'est important, même si en ce moment elles sont à l'arrêt évidemment depuis fin octobre en fait, puisque les salles de sport ne sont pas ouvertes.
Ouais.
Mais donc on avait mis en place déjà depuis l'année dernière des séances de self-défense une fois par mois là aussi pour les femmes victimes de violences, toutes formes de violences. Cette année, on a élargi un peu à toutes les femmes qui se sentent fragilisées pour X raisons. Donc voilà, on avait commencé septembre-octobre avec un bon petit groupe de 7-8 femmes à peu près.
Okay.
On travaille en partenariat avec l'ASPTT Laval, donc la section karaté self-défense. Et il faut dire quand même, parce que c'est important, d'autant qu'on a le rassemblement dimanche avec nos partenaires Tout en Moto 53, que ces séances de self-défense sont entièrement financées par Tout en Moto 53.
D'accord.
On a un partenariat au niveau national et également au niveau départemental. Et c'est vrai que chaque année, quand ils organisent, parce que c'est une association qui est mixte, ils organisent leur rassemblement moto. Les bénéfices de la tombola sont versés intégralement à Femmes Solidaires pour différentes actions.
Okay.
Et là, pendant 2 ans de suite, ça a été les séances de self-défense. Comme malheureusement, à chaque fois, ça a été tronqué à cause des confinements successifs. Donc finalement, on a encore de quoi les financer pendant un petit moment. Et c'est vrai que c'est important, ces séances de self-défense, pour reprendre confiance en soi, pour se réapproprier son corps. Et puis, effectivement, je le dis toujours qu'il faut s'ancrer dans le sol, mais c'est vrai que c'est important.
ça s'est ouvert à tous. Enfin, je veux dire, toutes les femmes peuvent éventuellement participer à cette action de salle défense. Il faut s'inscrire, il faut passer.
Oui, alors généralement, c'est souvent à moi qu'elles téléphonent. Et c'est vrai qu'une fois ou deux, il y en a à qui j'ai dit, ben, c'est pour les femmes victimes. Ah bon, ben, alors j'y ai pas droit. Ben, si, venez quand même, parce que voilà, on va pas fermer la porte. En
D'accord.
fait. À partir du moment où elles font la démarche de téléphoner pour se renseigner, ça veut dire que quelque part, elles en ressentent le besoin. Et donc, c'est important de les accueillir.
C'est pour ça qu'on a décidé cette année de l'ouvrir aussi aux femmes qui se sentent un peu fragilisées.
D'accord, oui.
Et pas forcément qui se sentent victimes, quoi.
Tout à fait.
Le collectif UND, c'est important pour vous, une histoire de différence, d'y participer, d'y être
Oui, ouais. Oui, c'est important, même si, bon, c'est vrai qu'on s'y retrouve peut-être un petit peu moins de temps en temps. Ça dépend. Alors... Je sais pas, on peut le dire quand même.
On peut tout dire.
Un peu trop d'hommes, je trouve, dans le collectif.
D'accord, effectivement, il y a pas mal d'hommes.
Et c'est une remarque que je me suis faite, en fait. Parce qu'on nous reproche souvent à Femmes Solidaires de ne pas admettre les hommes, d'être une association
c'est
une de
femmes.
C'est
une de mes questions. Bon, voilà. Tu l'anticipes.
Voilà. Et en fait, c'est vrai que, étant donné qu'on lutte contre le sexisme, qu'il soit envers les hommes ou envers les femmes, ça, même à moi, ça ne me paraissait pas très cohérent. En fait, ça vient des origines, donc, comme je disais tout à l'heure. Et les femmes, à cette époque-là, avaient vraiment besoin de se retrouver entre elles pour le droit de vote, des choses vraiment très, très spécifiques. Et bon, c'est resté dans les statuts nationaux, même si nous, on a un petit peu biaisé en créant des cartes de soutien, parce qu'on a quand même pas mal d'hommes qui veulent nous soutenir. Mais c'est vrai que l'idée, c'est que quand il y a des hommes, pas forcément tous, mais quand même, dans des instances de décision, au bout d'un moment, on finit par n'entendre qu'eux. Et c'est... Ils n'en sont pas forcément conscients, hein. Je veux dire, c'est pas, voilà, c'est un peu comme ça. Et c'est vrai qu'en visio en particulier, en visioconférence, là, les deux fois où j'ai participé, il y avait des fois, mais vraiment, c'était flagrant. Je me suis dit, bah oui, finalement, on a bien fait de ne pas les admettre dans nos CA. Mais bon.
Ouais, et puis, en fait, les hommes ne sont pas forcément responsables de cette situation-là, forcément. Parce que les femmes laissent plus facilement leur place aussi.
Oui, tout à fait. C'est vrai.
Et c'est aussi pour ça qu'on ne souhaite pas qu'il y ait d'hommes, parce que même si les hommes sont très...
respectueux,
bienveillants
et autres, les femmes vont facilement laisser leur place à l'homme en se disant « bon, moi j'ai d'autres choses à faire, donc ça ne me gêne pas », et vont facilement se reculer pour laisser la place à l'homme. Et le fait qu'on soit que des femmes, on ne peut pas se permettre ça. Et du coup, on est sûr de garder quand même cette idée qu'on est femmes solidaires et qu'on agit pour notre avenir ensemble.
Oui, c'est ça. Oui.
D'accord. Donc, c'est un vrai choix, en tout cas, qui est défendu.
Oui,
vous le défendez très bien, il n'y a pas de souci.
Oui. Après, dans nos discussions, dans nos partenariats, voilà, on n'a rien contre les hommes. On n'a rien du tout contre les hommes. Et ce n'est pas vraiment contre eux. C'est vraiment contre le problème de la société où la femme se recule souvent pour laisser la place à l'homme parce que elle se sent pas forcément légitime, elle se sent pas, et c'est vraiment la société qui lui donne cette place là et ce reflet là.
Oui, je crois que c'est important aussi de dire qu'on a une forme de féminisme qui n'est pas agressif contre les hommes. C'est-à-dire que bon, il y a quand même pas mal de féminismes actuellement qui sont assez assez violents.
Ça va être encore maintenant, parce qu'on voit ça dans l'actualité justement.
Ouais. Et d'ailleurs, on a quelquefois des jeunes femmes qui viennent vers nous et qui finalement ne restent pas parce que je pense que ça ne répond pas à leurs attentes d'agressivité et tout. Nous, on pense qu'on n'arrivera pas à faire évoluer les mentalités ni les choses sans les hommes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on le fasse ensemble. Et sur ce plan-là, d'ailleurs, on rejoint tout à fait Tout en moto 53 parce que on est là effectivement pour faire progresser les choses ensemble. Et on n'a pas du tout non plus d'esprit revanchard. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de prendre le pouvoir contre les hommes ou à la place des hommes. Donc on est alors c'est peut-être un peu utopiste, mais on a envie d'être ensemble et de former une société tout à fait harmonieuse, en fait.
Tous ces collabs.
Et c'est aussi ça qui nous a certainement aussi amené à venir à Unissons nos différences, qui nous paraissait sur les semaines d'éducation contre les discriminations. Vu nous les discriminations qu'on peut subir au quotidien, c'est vrai que ça nous a paru naturel. Et on est toujours très investis chaque année pour essayer de proposer des choses, pour essayer de faire du travail en commun. Hein, on a
fait évoluer les mentalités aussi, parce que je me souviens très bien d'une jeune femme du collectif, mais ça fait déjà un petit moment, à qui, dans le tour de table, il se trouve qu'on était plusieurs de femmes solidaires, et donc l'animateur, je ne sais pas qui c'était pas toi, qui lui a demandé « Et toi aussi, tu es féministe ?» Et elle a répondu « Ah non, non, moi je suis pour l'égalité. »
Ah.
Et là, j'ai failli avaler, non pas mon micro, parce que j'en avais pas à ce moment-là, mais j'ai dit, nous aussi, on est pour l'égalité. C'est pas du tout, voilà. Donc, là
mais
aussi...
c'est encore ses préjugés. Enfin,
ah
voilà,
ouais,
tous non, ces préjugés.
C'est vrai que,
ouais,
voilà.
Combattre, ouais.
Donc, quand on explique ça, même aux gamins, on leur dit, mais c'est pas un gros mot, féministe. Enfin, voilà, on explique, quoi, mais c'est vraiment... c'est ancré, hein, aussi, ça.
On en parlait tout à l'heure, vous en pensez quoi, justement, de ces mouvements féministes qui sont un peu plus, je veux dire, le mot rentre dedans, un peu plus sauvages dans leur manière d'agir. On voit, et c'est peut-être, enfin voilà, on voit des collages, par exemple, sur la ville de Laval, ou parfois, oui. Certaines nuits, puis on peut voir. Qu'est-ce que vous en pensez de ces mouvements-là? Enfin, voilà, est-ce que...
Disons qu'on a un petit peu du mal, enfin moi, en tout cas, un petit peu du mal à savoir qui... Qui y a derrière, en fait. Et c'est ça qui me gêne un petit peu.
Ouais, c'est que c'est pas revendiqué, en fait.
Voilà, c'est pas revendiqué. Enfin, il y a une organisation nationale, je crois, qui doit s'appeler Collage. Mais au début, c'était Collage Féminicide, ce qui était un non-sens, puisque féminicide, ça veut dire quand on tue une femme. Donc, c'est pas les collages,
c'est
féministe. Collage. Et donc, après, ils ont évolué, je pense, en collage féministe. C'est quand même un petit peu plus cohérent. Mais, alors, ça me gêne un peu parce que, d'une part, ça dégrade l'espace public. Alors, je suis pas trop à cheval là-dessus, mais quand même. Et puis, je me dis, bon, ça peut faire l'effet inverse quelquefois. Ça peut exaspérer au lieu de convaincre. Et puis, bon, même si je respecte à la limite, mais qu'est-ce qu'il y a après? Est-ce qu'il y a une action? Est-ce que celle ou ceux, parce que je ne sais pas, qui mettent ces collages-là, vont après vers les femmes victimes, vont après faire des actions de terrain? Enfin, voilà, c'est un petit peu...
Ouais, est-ce que ce n'est pas juste un one-shot qui est fait comme
ben,
ça? Et
oui,
puis, du coup,
oui,
avec
on sait pas,
derrière...
Ouais, on ne sait pas. Voilà, c'est un petit peu les questions que je me pose maintenant. Bon, ceci dit, je comprends que ça puisse être une démarche.
Linda.
Tout à fait. Moi, après, j'ai pas de vision sur ces féministes-là. Je pense qu'on a chacun notre féminisme et, et on a chacun notre vision du féminisme.
Oui.
Voilà. Moi, je me retrouve pas dans ce féminisme-là. Donc,
non,
voilà,
non
c'est tout.
Non, c'est vrai.
Après, là, j'écoutais une émission, justement, le 8 mars, parce qu'on a beaucoup parlé de ça le 8 mars. Je regardais la télé et j'ai entendu parler de plusieurs. Classe de féminisme, donc ça m'a un peu interloqué. Voilà, donc où il disait voilà, qu'il y avait. Alors, on a parlé des fémènes, mais par exemple, nous, les fémènes, bon, moi, j'irai pas mettre les seins à l'air, personnellement. Hein.
Dommage.
Mais leurs revendications de base sont des revendications qu'on comprend, nous, à Femmes Solidaires, et on se sent assez proche d'elles,
d'accord,
malgré tout,
ouais.
dans leur discours et dans les raisons pour qui les ont amenées à.
Elles étaient invitées à notre dernier congrès national,
d'accord,
aussi, les fémènes, oui.
Okay.
Et on a eu l'occasion de les rencontrer. Et c'est vrai que moi, parce que
je
en plus, elles prennent vraiment des coups au sens physique
on est bien d'accord.
Du terme et tout. Et franchement, c'est
une violence parfois.
Mais l'idée, c'est vraiment de dénoncer quelque chose. C'était pas. Elles nous ont très bien expliqué comment elles sont amenées à faire ça. C'est qu'au départ, elles l'ont fait sans se dénuder. Et elles se sont rendues compte qu'elles intéressaient personne et qu'il n'y avait pas d'impact. Et le jour où elles se sont dit, tiens, si on se dénudait et si on écrivait nos slogans sur notre corps, qu'est-ce qui se passerait?
Et se là, servent de leur corps comme arme, en fait.
Voilà.
Transgresser les choses et du coup, ça
permet
d'avoir.
Tout à fait.
Voilà, tout à fait. Et c'est vrai que voilà, c'est pas se dénuder pour se dénuder, c'est vraiment l'idée de faire réagir la société.
Tout à fait.
Ouais, tu disais, Linda, c'est ça choquant de dire qu'il y a des catégories féministes. Hein.
Moi, ce qui m'a choqué, c'est certains discours de certaines féministes que je trouve pas féministes. Moi, justement, j'entendais en particulier certaines féministes qui étaient pour la prostitution, qui ne voyaient rien à la. Voilà. Alors, je suis pas contre la prostituée, j'ai rien contre les prostituées. Voilà, c'est des femmes tout à fait respectables. Mais je ne suis pas persuadée qu'elles se prostituent réellement de leur plein gré.
Tout à fait. Voilà. C'est un de nos sujets de divergence avec plusieurs mouvements féministes. Hein.
Je reste persuadée que si elles avaient un réel choix à faire et que ce qu'elles pourraient vivre sans se prostituer, je pense qu'elles ne choisiraient pas de se prostituer. Je ne suis pas sûre. Enfin, moi...
La prostitution, voilà. Pour nous, c'est une violence.
Ouais. Je vous rejoins en tout cas là-dessus.
Voilà, complètement. Voilà. J'ai du mal à comprendre qu'on puisse être féministe et accepter qu'on puisse vendre. Qu'elles aiment la sexualité est une chose, il n'y a pas de souci, on peut faire
ce qu'on veut, on peut avoir envie.
Mais qu'on le vende, je trouve ça un peu plus.
Oui, surtout
problématique
que là,
et que je me dis qu'on le fait pas de plein gré.
Non. Surtout
on le fait,
là,
on le fait avec des raisons.
C'est pas un choix de vie.
Voilà. Oui, c'est ça. Puis là, il n'est plus question d'aimer la sexualité. Hein, parce tu ne peux pas aimer dans ces conditions-là, je ne pense pas.
Non.
Ouais, mais bon, je pense que celle qui le revendique, le fait que. Voilà, je pense que c'est lié à ça.
Les
femmes, elles aiment peut-être ça.
Oui, bah oui. Mais enfin, il y en a qui disent aussi que les femmes, elles restent avec leur conjoint violent parce que quelque part, elles aiment ça.
Oui, on entend ça aussi, on est bien d'accord. Ouais.
Et autre chose qui m'a aussi gênée dans ce que j'ai vu justement à la télé, c'était l'acceptation des femmes trans. Et donc une féministe qui n'acceptait pas les femmes trans. Et je pense que quand on est féministe, c'est compliqué cette histoire-là. Parce
que d'accord. Donc pour elle, les femmes trans...
N'étaient pas des vraies femmes.
Oui, j'ai entendu ça aussi.
Et moi, ça m'a énormément choquée. Parce que nous, justement, à Femmes Solidaires, on accepte les femmes trans. Elles ont le droit d'adhérer. Ce sont des femmes, comme les autres.
On est bien d'accord.
Oui, tout à fait, bien sûr. Non, mais c'est vrai qu'il y a des sujets de divergence quelquefois. Et donc... c'est un peu dommage parce que en principe on a le même objectif mais on n'a pas forcément non plus les mêmes moyens pour y arriver d'une part et d'autre part avec quand même des points particulièrement gênants. Nous aussi on est pour un féminisme universaliste, c'est-à-dire que même si on respecte les différentes cultures, là, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a quand même une limite, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour les droits fondamentaux, droit à disposer de son corps, droit à conduire sa vie comme on l'entend, il y a vraiment des droits pour nous qui sont universels et qu'on ne peut pas les bafouer sous prétexte que ce n'est pas la culture du pays.
C'est ça, sous prétexte d'une culture différente.
Ça, ce n'est pas acceptable.
Eh bien, merci en tout cas Laurette et Linda. On rappelle donc juste les permanences, donc au local le lundi de 14 à 17h, au commissariat de police le vendredi de 14h aussi à 17h. Ça évoluera certainement j'imagine avec les changements de...
Oui peut-être.
Voilà, mais pour l'instant en tout cas avec cette période, le couvre-feu à 18h. Et puis le premier samedi de chaque mois dans la galerie du Carrefour de 10h à 14h, c'est
tout
bien ça.
Tout à fait.
Merci beaucoup.
Merci.
Et puis alors du coup on peut vous contacter, comment ça se passe, dans un site internet, est-ce qu'il y a des choses, comment on peut...
Non, on n'a pas de site internet.
Pour quelqu'un qui écouterait, qui voudrait éventuellement vous contacter, qui voudrait...
Alors, on a un numéro de téléphone, déjà.
Je
peux le donner.
Ouais, on peut le donner, carrément.
Donc, 06 73 22 84 00. Il y en a même un autre, d'ailleurs. Mais elle est moins disponible en ce moment, donc on ne va peut-être pas le donner, celui de...
On rajoutera de toute façon, on rajoutera
et
aussi
puis,
le numéro.
Et puis, il y a notre adresse mail.
Oui, alors l'adresse mail, 53.femmesolidaires au pluriel et tout attaché. @gmail.com.
Ok, on va tout noter et puis on rajoutera ça du coup comme ça aussi sur, avec le lien du podcast. Et puis on peut retrouver aussi bien sûr sur le site du collectif UND, il y a un onglet où on pourra retrouver de toute façon le numéro de téléphone et bien sûr l'adresse mail. Merci Laurette.
Merci
Linda.
Merci à toi aussi.
À bientôt.
Oui.